Radio France Internationale, 13h en temps universel, 15h ici à Paris. Un nouveau journal avec Mayol de Charon. Bonjour Mayol.
Bonjour Nicolas et bonjour à tous. Et à la une, le Hezbollah confirme la mort de son chef Hassan Nasrallah. Israël avait annoncé l'avoir tué dans une frappe hier dans la banlieue sud de Beyrouth, fief du mouvement. Nous entendrons comment la nouvelle est accueillie au Liban et en Israël. En Ukraine, le bilan de la double frappe russe contre un hôpital de la région de Soumy s'alourdit. Au moins 9 personnes sont mortes, 12 ont été blessées. Seule la force peut contraindre la Russie à la paix, réagit le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Des manifestations organisées dans le monde à l'occasion de la journée internationale du droit à l'avortement. Au Chili, des centaines de femmes se sont réunies pour réclamer la légalisation totale du droit à l'IVG. Seuls 800 avortements ont été autorisés l'année dernière dans le pays. Des milliers se font dans la clandestinité. Le Hezbollah a donc confirmé la mort de son chef Hassan Nasrallah. L'armée israélienne avait annoncé l'avoir tué dans une frappe hier sur la banlieue sud de Beyrouth, bastion du mouvement armé libanais. Depuis lundi, les bombardements israéliens ciblant le Hezbollah ont provoqué la fuite de milliers de personnes. On retrouve tout de suite Sophie Guignon depuis le Liban. Sophie, vous êtes avec des déplacés qui fuient les frappes, des habitants qui sont déboussolés.
Oui, absolument. Depuis ce matin et la nuit dernière, des milliers de déplacés ont fui la banlieue sud de Beyrouth où ont lieu les frappes israéliennes. La banlieue sud, c'est une zone extrêmement densément peuplée. Ils fuient actuellement notamment vers le nord du Liban, qui est encore considéré comme une zone plus sûre. Ce qui est clair, c'est que depuis l'annonce par le Hezbollah du décès de son secrétaire général, Hassan Nasrallah, le Liban est dans l'inconnu la plus totale. Depuis plus de 30 ans, Hassan Nasrallah avait rythmé la vie politique libanaise en temps de guerre comme en temps de paix. Il avait notamment mené l'axe de la résistance au Liban sous la pression militaire du Hezbollah. Israël s'était retiré du sud du Liban en 2000 après 20 ans d'occupation. Mais aujourd'hui, en pleine guerre, la disparition de Hassan Nasrallah, qui est considéré par ses partisans comme une figure quasiment divine, pousse le Liban au bord du gouffre.
Merci Sophie Guignon en direct du Liban pour RFI. Et Israël avait donc annoncé la mort du chef du Hezbollah dans la matinée. Hassan Nasrallah ne va plus être en mesure de terroriser le monde, avait écrit l'armée israélienne sur son compte X. À ce stade, les frappes israéliennes se poursuivent. On retrouve tout de suite Michel Paul, correspondant de RFI à Jérusalem. Michel, en Israël, on se penche sur l'avenir après la mort du chef du Hezbollah.
Oui, Mayol, pour les Israéliens, c'est la mort d'un architerroriste qui, pendant 32 ans, avait menacé leur pays. Les médias ici rappellent que depuis 1982, Hassan Nasrallah avait planifié et lancé des milliers d'attaques contre des ressortissants israéliens et aussi des communautés juives en Israël et dans le monde. On souligne aussi le rôle que son organisation a joué dans les attaques contre des militaires américains et français au Liban. Plus de précisions sur l'opération Nouvel Ordre, c'est le nom qui a été donné par l'armée israélienne aux frappes sur le QG du Hezbollah. En tout, 80 bombes d'une tonne chacune, notamment des bunker busters, des bombes à charge pénétrante, effectives jusqu'à plus de 30 mètres de profondeur. Et en Israël, on se prépare maintenant à une riposte en provenance du Liban, mais aussi peut-être de l'Iran et de ses alliés. L'armée a annoncé la mobilisation de 3 bataillons supplémentaires de réservistes et aussi de nouvelles restrictions qui entrent en vigueur de manière immédiate. Désormais, les rassemblements de plus de 1000 personnes en plein air dans le centre du pays sont interdits, ce qui, Mayol, signifie en clair qu'en principe, les manifestations à Tel Aviv et à Jérusalem ne pourront pas, pour la première fois depuis des années, se dérouler comme tous les samedis soirs. Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, affirme que l'élimination de Nasrallah est un des événements les plus importants de l'histoire d'Israël. Et plusieurs commentateurs estiment que cette disparition va totalement changer la donne au Proche-Orient et permettre peut-être l'ouverture d'une nouvelle ère dans la région.
Merci Michel Paul, en direct de Jérusalem pour RFI. Et allié du Hezbollah, l'Iran a réagi dans la matinée. L'ayatollah Ali Khamenei avait dénoncé une politique israélienne à courte vue. Il affirme que les forces israéliennes sont trop faibles pour provoquer des dommages importants à la solide construction du mouvement libanais. Vous pouvez suivre l'évolution de la situation sur le live de la rédaction sur RFI.fr. L'Ukraine, de nouveau la cible de drones drones de l'armée russe. Plusieurs villes ont été touchées ce samedi dans la région de Soumy, au nord-est du pays. Au moins 9 personnes sont mortes et une dizaine ont été blessées. 2 drones sont tombés à quelques minutes d'intervalle sur un hôpital. Les précisions de Cerise Sudry-Ledu.
Les images sont glaçantes. Des personnes se réfugient dans un abri avant qu'un drone ne frappe à nouveau. Ce matin, à Soumy, dans le nord-est de l'Ukraine, un hôpital a été pris pour cible et de nombreuses photos et vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent des scènes de chaos, des nuages de fumée, des patients évacués sur des brancards dans des couloirs détruits ou des corps inanimés sous des couvertures de survie. C'est la technique de la double frappe qui a été employée, technique souvent utilisée par l'armée russe. La première frappe a visé plusieurs étages de l'hôpital, tuant une personne. Et la deuxième, une cinquantaine de minutes plus tard, a nouveau visé l'hôpital que les services de secours étaient justement en train d'évacuer. L'hôpital comptait 86 patients, dont 15 à mobilité réduite, précise le directeur de l'établissement, et 38 personnes travaillaient à l'intérieur. Les autorités régionales ont précisé que les deux frappes ont été perpétrées avec des drones Shahed de fabrication iranienne. Cerise Sudry-Ledu, Kiev, RFI.
Et le président ukrainien a réagi. La Russie fait la guerre aux hôpitaux, aux infrastructures civiles et à la vie des gens. Seule la force peut contraindre la Russie à la paix, a réagi Volodymyr Zelensky. Un nouveau drame sur la route de l'Atlantique entre l'Afrique et l'Europe. Le naufrage d'un bateau de migrants a fait au moins 9 morts et 48 disparus dans la nuit de vendredi à samedi près des Canaries. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, une agence de l'ONU, au moins 4857 personnes ont péri ou ont disparu sur cette route maritime, et ce depuis 2014. En France, 6 mois après l'inscription de l'IVG dans la Constitution, des rassemblements sont organisés cet après-midi à Paris et dans plusieurs villes à l'occasion de la Journée internationale du droit à l'avortement pour réclamer des garanties au nouveau gouvernement de Michel Barnier. Le collectif national pour le droit des femmes réclame un accès à l'IVG sur tout le territoire, la garantie pour toutes du choix des méthodes et des mesures contre les activistes anti-IVG. Le droit à l'avortement qui reste fragile dans le monde. Seuls 34% des femmes vivent dans un pays où l'avortement est autorisé sur simple demande. Au Chili, depuis 2017, l'avortement n'est possible que dans 3 cas, si la grossesse met en danger la vie de la mère, en cas de viol ou si le fœtus est mal formé. L'année dernière, un peu plus de 800 avortements ont été autorisés, un chiffre qui reste dérisoire par rapport à la réalité. Chaque année, plusieurs dizaines de milliers d'avortements se dérouleraient dans la clandestinité, selon des associations de défense des droits des femmes. Hier, quelques centaines de Chiliennes étaient réunies dans le centre de la capitale pour réclamer la légalisation totale de ce droit. À Santiago, le reportage de Naila de Rouanet.
L'avortement sans condition, c'est aujourd'hui ce que demandent les féministes au Chili.
Une femme qui n'entre pas dans le cadre de la loi, mais qui est bien décidée à avorter, devra le faire dans la clandestinité.
Andrea fait partie de la coordination féministe du 8 mars.
Les femmes qui en ont les moyens vont dans d'autres pays où l'IVG est légale. Mais si elles n'ont pas assez d'argent, alors elles doivent se cacher, mettant leur vie en danger, prenant le risque d'être arrêtées, avec aussi des conséquences sur leur santé physique et mentale.
Et même lorsqu'une femme entre dans le cadre de la loi, rien n'est gagné d'avance, explique Aldo.
Il y a un pourcentage élevé de médecins objecteurs de conscience et c'est un obstacle supplémentaire.
En juin dernier, le président Gabriel Boric a alors annoncé un projet de loi pour légaliser complètement l'avortement. Amanda n'y croit pas vraiment.
Le Congrès en soi reste un grand obstacle car il y a beaucoup de parlementaires de droite qui s'opposent à ce droit des femmes.
Selon un récent sondage, les Chiliens seraient pourtant de plus en plus favorables à l'IVG. 38% soutiennent l'idée de l'avortement sans condition. Naila de Rouanet, Santiago, RFI.
Et puis au Pérou, des chercheurs annoncent une découverte unique, celle de restes fossilisés de 3 mastodontes vieux de plus de 11 000 ans dans la région andine centrale de Junin. Les mastodontes, cousins des mammouths et des éléphants, pouvaient mesurer jusqu'à 3 mètres de haut. Parmi les restes des défenses, des fémurs, des tibias ou encore des dents notamment ont été retrouvés. RFI, il est bientôt 15h10 à Paris. L'information revient dans 50 minutes. We'll be right back.